Le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué le chargé d'affaires suédois au sujet de l'attaque contre l'ambassade d'Iran à Stockholm. À Bahreïn, les groupes d'opposition ont annoncé le boycott des élections législatives et municipales. En Tunisie, 204 migrants clandestins sauvés au large des côtes orientales du pays. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. Le président iranien Ebrahim Raisi a regagné vendredi soir, 23 septembre, d'Iran, après son voyage à New York pour prononcer un discours à l'Assemblée générale des Nations unies. Il a précisé que les ennemis de l'Iran se sont donné beaucoup de mal pour faire taire la voix du peuple iranien lors de son voyage à New York. Cependant, a-t-il dit, ils n'ont pas atteint leur objectif. La nation iranienne exige la levée de toutes les sanctions et la fin de double standard en matière de droits de l'homme, a déclaré M. Raisi. L'Assemblée générale des Nations unies a été l'occasion d'exposer les vues de la République islamique d'Iran, a-t-il déclaré. Le président iranien a également évoqué sa rencontre de jeudi avec le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, où il a souligné la nécessité de mettre fin à l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures d'autres pays. Les Nations unies doivent vraiment être une organisation pour les nations et non celle des puissances, a déclaré M. Raisi au chef de l'ONU lors de la réunion. M. Raisi a tenu plusieurs réunions au cours de son séjour de 5 jours à New York, en plus de s'adresser à l'Assemblée générale. Il s'agissait de la première visite de M. Raisi à l'ONU en qualité de président iranien. Le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué le chargé d'affaires suédois pour protester contre une attaque contre l'ambassade d'Iran à Stockholm. La diplomatie iranienne a convoqué vendredi 23 septembre le diplomate suédois en l'absence de l'ambassadeur pour lui transmettre la vive protestation de la République islamique d'Iran concernant l'incapacité de la police suédoise à prendre des mesures de sécurité pleinement requises conformément à la Convention de Vienne. Le chargé d'affaires suédois a déclaré qu'il transmettrait la protestation à son gouvernement. Pendant ce temps, le ministère iranien des Affaires étrangères a également exprimé sa protestation à la Belgique, vendredi, contre une attaque similaire contre l'ambassade de la République islamique d'Iran à Bruxelles. Le ministère iranien a déclaré que la Belgique est définitivement responsable d'assurer la sécurité des missions diplomatiques étrangères sur la base de la Convention de Vienne. L'ambassade d'Iran à Bruxelles a également condamné l'attaque. Des hommes armés ont visé vendredi soir 23 septembre aux mitrailleuses l'imam d'une mosquée dans la ville de Tafas, dans la banlieue de Deraa, ainsi que sa femme et son fils, le tuant sur le coup. Une source locale dans la ville de Tafas a fait savoir que les hommes armés avaient ouvert le feu sur Cheikh Motaz Abu Hamdan, imam d'une mosquée dans la ville, ainsi que sur sa femme et son fils, soulignant que le Cheikh Abu Hamdan était immédiatement tombé en martyr et que sa femme et son fils avaient été grièvement blessés. Par ailleurs, une unité des forces de sécurité syriennes a tué vendredi un certain nombre de terroristes Daesh aux environs de la ville de Jassem, dans la banlieue nord-ouest d'Deraa. Une source de sécurité a déclaré au correspondant de Sana, l'agence de presse officielle syrienne, lors d'un raid mené par les sources de sécurité contre des cachettes du réseau terroriste de Daesh dans l'une des fermes de la ville de Jassem, dans la banlieue du nord-ouest de Deraa, ces terroristes daeshistes ont été éliminés. Les 6 groupes d'opposition de Bahreïn ont annoncé le boycott des élections législatives et municipales qui se tiendront le 12 novembre. La Société islamique nationale Al-Wefaq, la Société d'action islamique, le Parti islamique Al-Wafa, la coalition du 14 février, le Mouvement pour la liberté de Bahreïn et le Mouvement Haqq pour la liberté et la démocratie ont publié une déclaration commune décrivant les élections comme un processus fictif qui manque de légitimité. La déclaration se lit comme suit. Le régime de Bahreïn investit ce processus électoral pour davantage de tyrannie, d'autoritarisme, de confiscation de la volonté populaire et d'acquisition de richesses, de pillage des richesses et des ressources du pays, d'augmentation des impôts sur les personnes, de poursuite de la normalisation avec les sionistes, crimes contre les droits de l'homme et incursion de la corruption. Les groupes d'opposition ont réitéré que tout le peuple de Bahreïn, sans exception, est affecté et ciblé dans ses moyens de subsistance, ses libertés, sa sécurité et tous ses droits à cause de ce processus électoral qui est organisé par le régime d'une manière qui ne convient qu'à lui-même. De plus, les 6 groupes ont appelé les populations chiites et sunnites de toutes les régions et composantes à boycotter le processus électoral. Selon les groupes d'opposition, cette initiative vise à préserver la souveraineté du pays et à le protéger de la corruption, de la judaïsation et de l'élimination de l'identité nationale pour l'avenir de Bahreïn et de son peuple. À la mi-juillet, le plus éminent religieux chiite de Bahreïn, Cheikh Issa Rassem, a qualifié les élections législatives à venir de nouveaux désastres et calamités pour le pays, déclarant que les élections ne feraient que renforcer les mesures réactionnaires et oppressives de la dynastie Al-Khalifa et mettraient en péril les intérêts du peuple bahreïni. Des élections générales sont prévues à Bahreïn le 12 novembre pour élire les 40 membres du Conseil des représentants. Le mois dernier également, Cheikh Rassem a dénoncé la décision du régime d'Al-Khalifa d'y établir des quartiers juifs dans la capitale Manama, affirmant que cela effacerait l'authenticité de Bahreïn, son patrimoine et sa nationalité. La famille dirigeante Al-Khalifa a donné son feu vert à l'établissement de quartiers juifs dans sa capitale Manama, ce qui pourrait permettre d'accorder la citoyenneté aux Israéliens. Cette décision controversée a presque coïncidé avec le deuxième anniversaire de la signature des accords controversés d'Abraham entre le régime sioniste et certains pays arabes du Golfe Persique. Des manifestations ont lieu régulièrement à Bahreïn depuis le début d'un soulèvement populaire à la mi-février 2011. Les manifestants exigent que le régime d'Al-Khalifa abandonne le pouvoir et permette la mise en place d'un système juste représentant tous les Bahreïnis. Dans la nuit de jeudi à vendredi 23 septembre, 204 migrants clandestins, dont 157 de nationalité étrangère, ont été secourus au large des côtes orientales de Tunisie, a révélé vendredi le porte-parole officiel de la garde nationale tunisienne. Dans un communiqué relayé dans la presse locale, Ousmane Djibabli a noté que des unités relevant des districts maritimes du centre du pays avaient réussi à déjouer 6 opérations d'immigration irrégulière. 10 brigades de la garde nationale des régions de Sfax, Zarsis, Kerkena et la Goulette ont arrêté 6 individus, dont 3 de nationalité de l'Afrique subsaharienne, étant en préparatif pour traverser illégalement la Méditerranée, a précisé M. Djibabli. 24 heures auparavant, des unités affiliées à la garde navale tunisienne avaient réussi à déjouer 2 tentatives d'émigration irrégulière menées dans la même zone et ont pu secourir 40 migrants clandestins, dont 31 de différentes nationalités africaines. Les ministres de la Défense du G5 Sahel estiment que le Mali reste l'épicentre du terrorisme au Sahel et demandent le retour de Bamako dans le G5. L'affaire a été étudiée lors des réunions des chefs d'état-major des pays membres de ce G5 à Niamey, au Niger, tenue du 20 au 22 septembre 2022. La réunion avait lieu entre le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie et le Tchad. Face à la dégradation de la situation, les ministres de la Défense lancent donc un appel au Mali afin qu'il regagne sa place au sein du G5 Sahel. La présence des terroristes au Mali alimente, insistent ces ministres, l'insécurité aussi au Burkina Faso et au Niger. La situation dans la zone dite des 3 frontières, à cheval sur le Burkina Faso et le Niger, inquiète particulièrement. Un autre défi auquel le G5 Sahel est confronté aussi et qui plombe la lutte contre le terrorisme, celui de son financement. Les ministres de la Défense ont appelé les Nations Unies et les autres partenaires à débloquer des fonds pour poursuivre la lutte efficacement. Voilà, si s'achève le journal, restez à l'écoute du commentaire politique. Pourquoi l'entité sioniste n'a d'autre choix que de capituler? En septembre 2021, les premières cargaisons de fioul iranien ont été remises au Hezbollah, à un moment où le Liban souffrait de pénuries d'électricité et de carburant. Aujourd'hui, Nasrallah s'est rapproché de la mise en œuvre de sa deuxième promesse, et cette fois, il s'agit de la livraison inconditionnelle des cargaisons iraniennes. L'engagement de la résistance a ainsi démasqué le vrai visage de Washington et de ses partisans au Liban, qui n'ont rien fait d'efficace pour résoudre la crise économique et le manque d'énergie et d'électricité au pays du Cèdre, malgré leurs fausses promesses. Le Liban est plongé dans l'obscurité totale avec des centrales électriques à l'arrêt en raison de l'épuisement du carburant importé et les foyers de la grande majorité des Libanais sont maintenant sans nourriture. Certaines personnes aisées comptent sur des abonnements privés à des générateurs qui sont chers et dont les heures d'alimentation sont limitées. Alors que la majorité des citoyens n'ont pas les moyens de payer les coûts de quelques heures d'électricité provenant de générateurs privés en raison de l'effondrement de la monnaie et de la hausse insensée du taux de change du dollar, du coût élevé de la vie et de la fourniture des besoins de base. Bénéficier de l'électricité est devenu une sorte de luxe au Liban, c'est le rapport d'un journaliste de Raya Liam. Plus d'une année s'est écoulée depuis que l'ambassadeur américain a promis de permettre au Liban d'avoir recours à l'électricité de Jordanie et au gaz d'Égypte. Mais la promesse de Dorothy Gea n'était qu'un mirage pour induire l'opinion publique libanaise au moment où les bateaux chargés de diesel venant d'Iran via le Hezbollah constituaient une bouée de sauvetage pour le peuple libanais. Le carburant iranien a fait redémarrer les fours, les générateurs d'électricité pour les hôpitaux, les foyers des personnes âgées et des orphelins, etc. Une année s'est écoulée et les promesses américaines n'ont pas été tenues. Et l'ambassadeur, qui occupait habituellement les écrans et les tribunes, n'a pas semblé expliquer au peuple libanais où sont passées ces promesses. Et pourquoi elles n'ont pas été mises en œuvre. Au même moment, la nouvelle initiative iranienne est apparue et le secrétaire général du Hezbollah, Saïd Hassan Nasrallah, a dû lancer une nouvelle fois la bouée de sauvetage au peuple libanais en envoyant les navires de carburant nécessaires pour rétablir les centrales électriques et assurer les heures de lumière dans les foyers des Libanais, leurs institutions et leurs magasins. Pour l'analyste arabe, ce paradoxe a suscité des réactions parmi les Libanais, notamment les critiques qui n'ont pas cessé d'attaquer le Hezbollah et de le tenir pour responsable de l'effondrement, alors que le mouvement de résistance libanais vient maintenant au secours de sa nation. Cette catégorie de la classe politique a été confrontée à l'initiative du secrétaire général du Hezbollah de fournir du carburant envoyé par l'Iran au laboratoire d'électricité libanais, initiative dont Hassan Nasrallah a parlé lors d'une interview spéciale avec la chaîne Al Mayadeen le mois dernier. Les classes politiques opposées l'ont bien sûr mise en doute. Certains l'ont même qualifiée de non sérieuse. Ces mêmes voix ont mis en doute la capacité du Hezbollah à fournir du diesel aux Libanais l'année dernière. Mais elles ont rapidement changé de discours après la réalisation de la promesse du chef du Hezbollah et l'arrivée des navires transportant du diesel iranien, navires qui ont été installés dans les ports syriens avant que leur cargaison n'entre sur les terres libanaises. Aujourd'hui, le Hezbollah et son allié iranien ont abordé la mise en œuvre de la deuxième promesse. Et cette fois, les navires de carburant et en grande quantité seront destinés à faire fonctionner les installations électriques libanaises. Cette fois, les navires entreront directement dans les eaux libanaises et en coopération avec le gouvernement libanais.